La couverture.
Bonjour tout le monde, je suis de retour après des vacances un peu plus longues que prévues. Alors je tiens quand même à m'excuser de vous avoir abandonné ces trois dernières semaines, mais j'avoue que j'étais bien à me dorer la pilule sous les cocotiers. Quoi qu'il en soit, me voilà aujourd'hui pour discuter d'un roman avec vous. Celui-ci, il est issu de la littérature anglaise et il est extrêmement célèbre. L'autrice, elle est culte et ça me tenait vraiment à cœur pour le coup de la présenter dans cette chronique. C'est de la célèbre Jane Austen dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce qui me permet, par la même occasion, de revenir aux sources, donc là on va remonter la pendule jusqu'en 1813, date de publication de Pride and Prejudice, Orgueil et Préjugé. Parce que j'ai beau adorer les livres contemporains qui sortent de nos jours, mais parfois c'est quand même bien de retourner vers une littérature plus ancienne. Orgueil et Préjugé, c'est un roman qui, dès sa sortie en Angleterre, a connu un succès immédiat et qui aujourd'hui prospère comme l'une des œuvres les plus connues au monde. Et s'il plaît autant, ce roman, et fait toujours fureur à notre époque, c'est parce que Jane Austen, à l'intérieur, nous partage un mélange de romance, de valeurs familiales, d'humour, un texte très complet. Bien qu'il soit important de rappeler qu'avant toute chose, le sujet central de ce roman, c'est le mariage et le rapport au mariage. Ce que je tiens à souligner quand même, qu'à cette époque, les femmes d'une certaine classe sociale ne travaillaient pas. Elles dépendaient entièrement de l'homme, mais l'homme en question, faut-il encore le trouver ? Donc on est à la fin du XVIIIe siècle et on plonge dans le quotidien d'une famille de 5 filles qui arrivent toutes en âge de se marier. Si vous aviez lu auparavant ou vu les chroniques de Bridgerton, c'est un peu ce principe-là, de participer à des bals, d'aller convoiter des hommes dans le but de trouver un mari. Et dans Orgueil et Préjugés, le sujet il est mis à plat dès la première phrase du texte, je vous la cite. Chacun se trouvera d'accord pour reconnaître qu'un célibataire en possession d'une belle fortune doit éprouver besoin de prendre femme. Une citation très célèbre que vous avez déjà peut-être entendue auparavant d'ailleurs. Donc revenons à nos 5 jeunes filles qui font partie de la famille Bennet, une famille appartenant à la gentrie anglaise, autrement dit la petite noblesse campagnarde. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français pour décrire la gentry, mais on la situe si vous voulez entre l'aristocratie et la bourgeoisie. Ce milieu-là, Jane Austen, elle le connaît très bien puisqu'elle en fait partie. Elle grandit, elle baigne dans ce monde-là, un monde qu'elle va dépeindre tout au long du roman avec sarcasme et ironie. Donc bien plus qu'un simple roman d'amour, Orgueil et Préjugé, c'est en quelque sorte une critique et une représentation réaliste de la société anglaise à la fin du XVIIIe siècle. L'autrice dans ce roman, elle met en scène des personnages avec tous les clichés qu'on peut imaginer et elle se moque d'eux, elle les tourne au ridicule. Dont, justement, la mère Bennet. Elle, clairement, son seul but dans la vie, c'est de caser ses filles. Et alors, quand débarque en ville un nouvel arrivant, le noble monsieur Bingley, à partir de ce moment-là, c'est les Hunger Games. C'est la guerre entre toutes les mères qui veulent toutes, à tout prix, lui refiler leurs filles. Et naturellement, lorsque monsieur Bingley organise un bal, madame Bennet avait ayonné ses 5 filles. Alors, la technique va porter ses fruits, puisque l'attention du jeune homme va se porter sur l'aînée de la famille Bennet, Jane. Là, vous allez dire, bon, c'est bon, on a compris, les deux, ils vont tomber amoureux, se marier et avoir beaucoup d'enfants. Et je vous ai bien berné, parce que l'histoire qui nous intéresse, ce n'est pas la leur. Notre personnage principal à nous, c'est la seconde de la famille, Elizabeth Bennet. Une jeune femme qui, pour le coup, est un peu à l'écart de la société. Elle voit les choses différemment. Elle revendique une certaine liberté, elle ne court pas après un mari, non pas qu'elle veuille rester dans le célibat toute sa vie, parce que tout de même, je rappelle qu'à l'époque, pour une femme, ne pas se marier, c'est un échec. Mais elle n'a pas envie de se lier au premier venu. Elle ne croit pas au grand amour, mais elle a une vision du mariage différente des autres. Pour elle, ce qui est primordial, c'est d'être dans une relation où les deux se respectent mutuellement. Elizabeth Bennet, elle diffère des autres également dans l'image qu'elle renvoie d'elle, dans ce qu'elle laisse paraître. Parce que si le titre du roman inclut le mot préjugé, il fait en fait référence à l'image que devaient renvoyer les femmes dans ce milieu de la gentry à l'époque. On attendait des femmes qu'elles soient distinguées et courtoises. On ne leur demandait pas du tout d'avoir de la conversation, par exemple. Or, Elizabeth, qui répond au surnom de Lizzie dans la majorité du texte, elle n'est pas hyper coquette, elle aime lire, elle est éduquée, elle a sa propre opinion sur la vie et elle a du répondant. Et cette différence, c'est une chose qui va particulièrement intriguer un certain Monsieur Darcy, meilleur ami de Monsieur Bingley. Alors, Monsieur Darcy, c'est un personnage qu'on rencontre pour la première fois durant le bal en question. Et vraiment, on est loin de l'homme parfait, qui n'a que des qualités et qu'on adore dès la première page, comme dans les love stories conventionnelles. Alors, oui, il est très riche, et il a un certain charme physiquement. Mais par contre, socialement parlant, il n'y est pas du tout quoi. Il apparaît vraiment comme un personnage hyper orgueilleux, désagréable, qui est en âge de se marier mais qui ne fait aucun effort pour plaire. Il refuse de danser avec qui que ce soit, il rejette tout le monde. Ce qui montre d'ailleurs une totale opposition avec la première phrase du roman que je vous citais tout à l'heure. Un autre point, également intéressant avec Monsieur Darcy, c'est qu'on ne le voit qu'au travers des yeux d'Elisabeth. Et petit à petit, on va voir l'évolution du comportement du personnage à son égard. Si au début elle le déteste au plus haut point, et ben étonnamment, elle va petit à petit commencer à le considérer. On va voir en fait que ces deux personnages qui ne se sentent pas réellement en phase avec la société vont finir par se rapprocher dans la différence. Et c'est ça qui fait la beauté du roman également, le fait de voir l'évolution des personnages en eux-mêmes, mais aussi l'évolution de leurs relations les uns avec les autres. Il y a par ailleurs deux points primordiaux dans l'écriture d'Austin qu'on va quand même relever parce qu'ils sortent vraiment du commun par rapport aux idéologies de l'époque, et ce sont particulièrement ces points-là qui ont fait la notoriété du roman. D'abord, avec Orgueil et Préjugés, Jane Austen met en lumière la condition des femmes à son époque, de leur dépendance à une figure masculine. Elles doivent dépendre d'un homme si elles veulent vivre. Typiquement, leur seul but dans la vie, c'est de se marier et de fonder une famille. Le second point qui sort de l'ordinaire, c'est la vision du mariage qu'elle partage dans ses œuvres. À la fin du XVIIIe siècle, un mariage, c'est avant tout un contrat entre deux familles, avant même d'être une question d'affection entre deux êtres. Pourtant, dans Orgueil et Préjugés, on plonge dans une vraie histoire avec des sentiments, de la passion. Austin, elle va à contre-courant en nous disant en gros « mariez-vous par amour ». Alors si aujourd'hui ça nous paraît quand même être la base d'un mariage, c'était loin d'être le cas à l'époque. Un message d'autant plus puissant lorsqu'on sait que l'autrice elle-même ne s'est jamais mariée. Il faut croire qu'elle n'a jamais trouvé sa moitié, et pour autant elle ne s'est pas réduite à épouser n'importe qui. Comme on dit, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Austin sera restée fidèle à ses idéologies jusqu'à la fin. Dans une conversation qu'elle aurait eue avec sa cousine, elle aurait d'ailleurs affirmé « Il vaut mieux tout préférer ou endurer plutôt que de se marier sans affection ». Bon, la phrase ne paie pas de mine en français, mais en anglais c'est vachement plus stylé. D'autant plus que la plume d'Austin est particulièrement agréable à lire. À ce sujet, de mon côté, je l'ai lu en anglais, parce que c'est en lien également avec mes études, donc je voulais un peu me challenger en lisant en version originale. J'avais vraiment envie de voir l'écriture d'Austin parce que finalement, quand on lit des œuvres traduites, c'est pas réellement la plume de l'auteur, mais plutôt celle du traducteur qu'on lit. Et j'ai été agréablement surprise, parce qu'en comparaison à d'autres œuvres qui pourtant ont été publiées après Orgueil et Préjugés, je pense par exemple à des romans de Charlotte Brontë par exemple, celui-ci, Orgueil et Préjugés, il se laisse carrément lire. Donc je le recommande pour des personnes qui auraient un certain niveau d'anglais et qui voudraient s'essayer à la lecture d'un classique en version originale. Et puis pour finir sur une touche un petit peu plus légère, sachez qu'il y a eu bon nombre d'adaptations au cinéma et à la télévision d'Orgueil et Préjugés, dont celle de Joe Wright, qui a donné les rôles d'Elizabeth à Keira Knightley et de Monsieur Darcy à Matthew McFadden. Un film qui pour le coup est extrêmement fidèle au roman, autant dans le scénario que dans le script, puisque les dialogues et voix off sont les mots de Jane Austen que vous retrouverez dans le roman. Toujours est-il qu'Orgueil et Préjugés n'est pas le seul roman de Jane Austen. En tout, elle aura publié 6 œuvres, dont de très célèbres telles que Persuasion, Lady Susan ou encore Emma. Et d'ailleurs, moi je vous laisse là parce qu'il faut absolument que j'aille les lire. Donc merci de m'avoir écouté, hein, et à la semaine prochaine!